Alors on va tout de suite avec Monsieur Miranda pour le côté cette fois politique. Monsieur Miranda, donc d'où vous est venue la piqûre politique ? Parce que vous avez dit que être pompier c'était fantastique, vous parlez de ça encore aujourd'hui, mais d'où vous est venue cette piqûre pour la politique ?
Écoutez, la politique, ça a été un hasard. Quand j'étais avant de me lancer en politique, j'étais aussi impliqué localement. J'étais entraîneur au hockey ici dans Anjou pendant 12 ans. J'étais membre fondateur Club Optimiste du Rouen-Anjou. J'ai fait plusieurs activités du bénévolat déjà en tant que citoyen. Ça a été le maire de l'époque, Richard Quirion, qui m'avait demandé à l'occasion, j'assistais au conseil de ville dans le temps, à l'occasion, quand il y avait des dossiers qu'on voyait qui touchaient, parce qu'Anjou, c'est une petite communauté, j'allais à l'occasion, et puis il m'a demandé dans le temps, en 89, de me présenter. Je croyais faire un mandat. 9 mandats plus tard, je suis encore là.
C'est ça.
C'est clair. J'ai été élu la première fois maire en 97.
Alors, en 97, mais là, il y a eu une période un peu difficile, c'est-à-dire que, bon, tout le monde a vécu ça, diffusion, et vous étiez vraiment au front, là, vous étiez contre, vous vouliez faire partie de cette bataille-là. Dites-nous encore quelques années pourquoi faire partie de la bataille.
Écoutez, j'ai toujours été contre les fusions. Je trouvais que ça a été quelque chose qui a été mal fait. Et c'est clair que c'est fait maintenant. Est-ce que le gouvernement un jour va faire quelque chose? Un jour, je crois qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que le citoyen n'a plus les moyens de payer comme il paye. C'est clair que nous, c'était plus sur ça. Je suis fier d'être Montréalais. J'ai toujours été fier d'être Montréalais. J'ai toujours demeuré sur l'île de Montréal. Je suis quelqu'un qui n'a jamais demeuré à l'extérieur. Pour moi, je considérais, puis je crois que small is beautiful, l'expression small is beautiful, c'est une vérité. On voit les villes qui ont défusionné, ils sont capables de s'intégrer avec Montréal pour les services centraux, les services que nous avons besoin en commun, tout en maintenant, parce que chacun des arrondissements, puis la preuve est, justement, aux dernières élections encore, chacun des arrondissements a une vie de quartier. Dans mon métier de pompier, j'ai eu la chance, moi, de travailler dans Saint-Henri, dans Pointe-Saint-Charles. Les gens de Saint-Henri puis de Pointe-Saint-Charles, ils se reconnaissent pas nécessairement comme étant. Ils reconnaissent chacun leur quartier. Rosemont, c'était la même chose avec la petite Italie. J'ai fait tous ces quartiers-là. Et c'est clair que c'est une question d'avoir une qualité de vie selon notre endroit où on demeure. Les gens choisissent un secteur de la ville parce que c'est le secteur qui leur donne les services qu'eux voient pour leur famille.
Alors, donc, en ce moment, comment s'est passé, je vais revenir un petit peu en arrière, 9e mandat, comment vous avez vu les élections? Ça jouait dur, hein?
C'est malheureux, hein, cette campagne-ci, je vais être honnête, c'est ma 9e campagne. J'ai trouvé que, bon, ici, localement, encore là, il y a eu beaucoup de choses que... les médias sociaux, c'est malheureux. Beaucoup de gens se cachent en arrière des claviers puis des médias sociaux, puis ils disent toutes sortes de choses. Mm-hmm. Et même au niveau de la grande mairie de Montréal, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de substance. Il manquait un peu. Oui, on va faire 20 000 logements. Mais il n'y a personne qui a dit comment qu'il allait faire le 20 000 logements, là. Comprenez-vous? Je trouvais qu'on avait trop de... Et puis, je l'ai dit, j'ai passé le message plus d'une fois que je trouvais qu'on manquait vraiment de substance. On manquait... C'était pas une campagne d'idées. Alors qu'on aurait dû avoir une campagne d'idées. Vraiment de dire, voici ce qu'on veut faire, pourquoi qu'on veut le faire, puis comment on va le faire. Logement social, c'est un très gros problème et je crois sincèrement, quand il parlait de faire du logement social, qu'il y a moyen de le faire, mais si tu veux faire du logement social d'une façon centralisée ou si tu vas faire des projets de plusieurs milliers de logements, ça ne fonctionnera jamais. Mmh. Il faut que ça soit fait à la pièce, localement. Mettons, je prends mon exemple chez moi en joue. On peut faire du logement social localement, que ces familles-là soient intégrées dans un quartier et non qu'ils ne soient pas identifiés comme un secteur. Ah, ça, c'est ma gang de logements sociaux qui sont là. Il ne faut pas que ce soit ça. Et je crois que cette campagne-ci, elle n'a pas été une belle campagne pour ces raisons-là. On n'a pas assez débattu sur les idées.
Alors, justement, vous parliez de médias sociaux. On a parlé de votre alliance, peut-être. C'était des rumeurs avec Denis Coderre. Quelles étaient vos relations pendant la campagne électorale?
Ben, nous, je vais vous dire, M. Coderre, on a appuyé la candidature de M. Coderre parce que c'est celui qui rejoignait le plus nos idées, mais on faisait pas partie de son équipe. J'ai voté pour Mme Plante en 2013. En 2017. En 2017, j'ai voté pour Mme Plante. Je considérais qu'elle allait parce que M. Coderre n'était pas nécessairement dans la bonne direction. C'est à coup ici, bon, je l'ai appuyé parce que j'ai vu ce que Mme Plante a fait pendant 2017 à 2021. Je n'étais pas d'accord. Je vois que même aujourd'hui, il y a des choses que je suis pas d'accord et je crois qu'il faut qu'on puisse, sans avoir les mains attachées d'une façon quelconque avec un parti politique, qu'on puisse débattre de nos idées et représenter les attentes de nos citoyens. Et c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Avec M. Coderre, j'ai passé mes messages, on avait les mêmes visions sur certaines choses. Et, écoutez, pour aider tout le monde, il faut créer de la richesse. Tu peux pas faire de la richesse si tu peux pas faire des projets si tu crées pas de la richesse. Et c'est un peu le côté où la faiblesse de Mme Plante, elle est pas assez développement économique. Il va falloir qu'elle développe ça un peu plus. C'est pour ça qu'on était pas, on se rejoignait pas, non.
Comment vous voyez la défaite, vous l'attribuez à quoi, la défaite de Denis Coderre?
Ben, ce que je vous l'ai dit, je crois qu'ils ont passé, M. Coderre, écoutez, je connais Denis depuis 40 ans. Je constate que c'est un bon homme. Écoutez, il a une passion, vraiment, c'est un passionné. C'est clair que il y a des choses que j'ai vues dans sa campagne que j'aurais pas fait. Sa campagne médiatique n'était pas pour moi, n'était pas adéquate. Je me souviendrai, on passait le commentaire ici quand il y avait des affiches de Denis. C'était trop, tout va dans le marketing, hein. Et moi, comme avec un œil de politicien, je regardais ça, je dis, écoute, c'est-tu des lunettes qu'il veut vendre? C'est-tu des lunettes ou Denis Coderre? Comprenez-vous? Parce que c'est le moment que c'était fait. Son marketing pour sa campagne n'a pas été bien fait.
Et vous aimiez aussi les slogans ou ça va avec les lunettes?
Comment vous dites?
Est-ce que vous aimiez les slogans ou ça va...
Écoutez, tous les slogans peuvent être bons, mais il faut que tu le démontres le pourquoi tu utilises ce slogan-là et qu'est-ce que tu vas en faire. C'est clair que Denis, pour moi, je trouvais ça, j'ai dit, c'était une drôle de campagne. Moi, là, c'est ma 9e personnelle, là. C'est ma 9e, puis je vais vous dire, vraiment, j'ai pas trouvé que... c'est pour ça que tu voyais que les citoyens, jusqu'à la dernière semaine, il y avait un groupe pourcentage de citoyens qui étaient encore indécis.
Vous le sentiez sur le terrain?
Comment vous dites?
Est-ce que vous le sentiez sur le terrain qu'ils étaient indécis?
Oui. Il est indécis envers M. Coderre. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, moins qu'à l'habitude. C'est clair que cette année, avec la pandémie, ça nous a obligés à être plus prudents. On en faisait moins. On n'en faisait pas le soir autant, parce que normalement, on en faisait beaucoup. Moi, je vais vous dire, en temps normal, une campagne électorale, nous, on sonde approximativement 60% de notre population en porte-à-porte. Cette campagne-ci, on a dû faire à peu près 35-40% maximum, dû au fait qu'on en faisait moins à cause de la pandémie. Oui, on ressentait ça. Au niveau de la mairie de Montréal, je ressentais que les gens n'étaient pas encore sûrs. Les gens me parlaient de Coderre, les gens me parlaient de Plante. Mais localement, non. Localement, ça, c'était clair. Les gens me disaient, non, nous autres, c'est clair qu'on vote pour vous autres. Par contre, au niveau de la mairie de Montréal, on n'est pas sûr encore. On ne sait pas. Et c'est là que je trouvais que la campagne de M. Coderre, le marketing n'a pas été bien fait.
Alors, vous, personnellement, 9e victoire, on va appeler ça comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui ont été élus. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes-là qui commencent, en fin de compte, la clé de votre succès, Monsieur Miranda? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là pour un 9e mandat?
Écoutez, l'âge n'a pas... c'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Tu peux être jeune, tu peux être vieux, ça n'a pas rapport. C'est plus, il faut être à l'écoute. Moi, je vais vous dire, là, je suis élu, je commence mon 9e mandat. Je suis en campagne électorale continuellement dans le sens que partout, moi, je suis présent partout, mes gens, j'insiste pour que mes élus, mes conseillers participent partout dans leur communauté. Je vis en joue, il faut être à l'écoute. Il faut prendre aussi tout, parce qu'il y a des groupes d'intérêt qui vont mettre beaucoup de pression. Les groupes d'intérêt vont mettre beaucoup de pression, mais ne représentent pas nécessairement la majorité. Je le vis régulièrement, moi. Mettons, si je prends pas que je suis contre l'environnement, au contraire. Non. Je suis quelqu'un, là, je veux vous dire, l'environnement, pour moi, c'est important. Comment on fait pour que l'environnement, on l'aide l'environnement tout aussi en ayant une qualité de vie? C'est ça. Et les groupes d'intérêt vont mettre beaucoup de pression, mais sont minoritaires. Il faut faire la part, faut vraiment là faire un mélange de tout qui fait en sorte que tu dis oui, c'est ça mon orientation. Il faut que tu sois à l'écoute de tout le monde. Si tu es à l'écoute de juste ceux qui font du tapage, tu n'iras pas nulle part. Tu dois être à l'écoute de tout le monde.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans ce 9e mandat pour Anjou?
Ben écoutez, ça c'est clair que bon, Madame Plante a gagné la mairie, c'est la mairesse de Montréal pour les 4 prochaines années. Je vais respecter ce mandat-là qu'elle a. J'espère qu'elle aussi va respecter le mandat que les gens ont donné à gauche et à droite parce qu'elle n'a pas gagné partout. On voit encore une fois peut-être les ex-banlieues contre Montréal. Il faut changer ça. Moi, elle amène des projets que je considère qui sont intéressants. Je vais voter avec elle. Je vais défendre mes dossiers aussi, comme je l'ai toujours fait. On a des choses comme la ligne bleue. On entend parler. Le gouvernement, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de promettre qu'il va faire la ligne bleue qui accouche. Là, hein. On est rendu là. Qu'on accouche. Et il y a des possibilités pour une ligne bleue. On parle du REM. Moi, je crois que le REM, c'est pas nécessairement la priorité. Pour moi, le REM, là, comment on va faire une ligne de transport à moins d'un kilomètre de la ligne, c'est verte la ligne oui. Beaugrand, je me souviens plus la couleur, là. Et c'est pas nécessairement, pour moi, c'est pas les vraies priorités. Là. Je pense qu'on a à rendre le service de transport de métro qu'on nous avons actuellement, de le rendre plus adéquat. Il faut peut-être la ligne qui est à Nerey-Beaugrand, elle, peut-être faudrait la prolonger. Elle, peut-être qu'il faudrait, la rendre, la boucler, peut-être avec la ligne bleue, éventuellement, ce qui était dans les plans des années 90. C'est des choses comme ça. C'est des dossiers comme ça que je vais défendre. J'ai la Maison de la culture ici. Bon, là, on a acquis un terrain il y a maintenant 6 ans. On nous a empêchés d'avancer. Cette année, Mme Plante, ça faisait partie de son programme électoral, une Maison de la culture Anjou. Bien, Mme Plante, nous allons marcher la main dans la main pour faire la Maison de la culture Anjou.
Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau de la sécurité? On sait qu'à Montréal, dans certains quartiers, c'est vraiment problématique. Et à Anjou, est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité, un plan de sécurité que vous voulez améliorer?
Écoutez, c'est clair que quelque chose, on n'échappe pas à la réalité montréalaise. On n'est pas, grâce à Dieu, on n'est pas vraiment un endroit trop problématique encore, mais il y a des raisons. Nous avons des gardiens dans tous nos parcs. Nous efforçons à tous les ans. Nous, on a le droit d'avoir 2 cadets qui patrouillent les rues durant l'été. On en prend 4 supplémentaires, fait qu'on en a 6. Bon? C'est d'avoir des choses comme ça. Un des points que je crois que Montréal a fait il y a quelques années, ils avaient centralisé, on appelle ça nos préposés à l'environnement, on appelait ça comme ça, c'était des gens qui patrouillaient, aujourd'hui c'est les donneurs d'étiquettes de Montréal, mais les donneurs d'étiquettes de Montréal, ils patrouillent seulement où c'est payant, c'est pas ça qu'il faut faire. Là. Et moi, une chose que j'ai l'intention de demander, qu'on nous redonne la possibilité qu'on puisse avoir nos patrouilles, parce que ce sont des yeux qui se promènent, la police ne peut pas être partout. Et ce sont des yeux, puis eux sont en communication directement avec la police quand il y a des choses. C'est un travail à faire, mais il faut que Montréal soit prêt à redonner aux arrondissements, parce que le problème s'est empiré depuis qu'on a enlevé ça. Aujourd'hui, on veut juste donner des étiquettes. Non, faut pas y donner des étiquettes. Le citoyen paye des taxes pour avoir des services. Et non pour payer juste des salaires. Il veut avoir des services. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut que Montréal, vraiment, s'en aille vers une ville au service des citoyens.
Est-ce que vous avez eu plus de plaintes depuis un petit moment au niveau de la sécurité où tout se passe bien à Anjou?
C'est, Non, oui, on en a, mais c'est sectoriel, mm-hmm. certains parcs l'été, mais on intervient. Aussitôt que nous avons un problème, on intervient. On a mis en place cette année encore où les cols bleus qui ont patrouillé un peu plus pour la sécurité. C'est clair que quand nous avons des gardiens de parcs, ce sont des jeunes étudiants. Des étudiants qui sont assez jeunes, dans beaucoup de cas, c'est leurs propres amis qui font du trouble dans un parc. Fait qu'il faut avoir, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être changer, parce que les conventions collectives de Montréal sont faites de sorte que on ne peut qu'engager des étudiants pour faire les gardiens de parc. On devrait être en droit d'engager aussi peut-être des personnes d'un certain âge qui veulent avoir une deuxième job, un peu comme les chauffeurs d'autobus. Hein. Les chauffeurs d'autobus, c'est des gens souvent qui sont à la retraite puis qui conduisent les autobus durant la période scolaire. Là. Il faut revenir à quelque chose comme ça.
Donc, au niveau du logement, parce que ça aussi, c'est une problématique qui se retrouve dans tous les quartiers. Qu'est-ce que vous comptez faire cette année ou pendant votre mandat?
Moi, malheureusement, ce qui est le problème d'Anjou, on est construit à 100%. Pour construire quelque chose de nouveau, c'est là qu'il va falloir exproprier, démolir, reconstruire. Et c'est là que je dis, nous avons un programme, c'est là que quand j'entendais en campagne électorale, on va faire 20 000 logements, 30 000 logements, on entendait des chiffres. Hein, plus que ça allait, plus qu'on entendait des chiffres. Mais jamais le comment faire. Et une des façons que je crois que devrait être fait, étant construit à 100%, nous, en joue, par contre, on peut, il y a des frais de parc qui se donnent 10%. Un projet qui s'établit en joue, partout à Montréal, il paye 10% des frais de parc. Mais il devrait y avoir aussi peut-être un 10% ou un 15% ou un 20%, peu importe, de frais de logement. Où nous, les arrondissements, on pourrait, moi je peux identifier des secteurs où ce que je sais très bien, c'est des vieilles maisons en décrépitude qu'on pourrait acheter, démolir, les transformer. Il ne faut pas donner ça au privé. Là. Parce que si on veut donner ça au privé, je m'excuse, là, c'est faire de l'argent avec ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut que ce soit quelque chose, c'est que ça devrait être nous les arrondissements, on achète les bâtisses, on démolit, on construit des 4-5 étages, des 20, 30, 40 logements abordables, qu'on transforme par après en coopérative et qu'on donne aux citoyens, parce qu'on en a des coopératives, que ça fonctionne très bien. Et on donne aux citoyens, voici ce qu'il faut faire, faites ceci. Et c'est comme ça, parce que nous, oui, on a du logement social, on a besoin de partout, comme partout ailleurs, et malheureusement, les loyers en joue sont de plus en plus chers. Il faut trouver une façon de vraiment donner un service à nos citoyens. Puis il ne faut pas les mettre dans des ghettos. Il ne faut pas mettre les citoyens dans des ghettos. Il ne faut pas créer des ghettos. Il ne faut plus créer des résidences Jeanne-Mance où ce qu'on a des 1000 logements, des choses comme ça. Il ne faut plus faire ça, là.
Alors, un grand merci, Monsieur Luis Miranda, et encore bravo pour votre élection.
Merci bien. Bonne journée à vous.
Au revoir.